Chaque candidat pour 2022 aura affronté la question douloureuse et difficile des migrants et des pauvres. C'est pourquoi je vous reçois, Valérie Régnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas candidate, mais vous connaissez à la fois le pape et Lesbos en Grèce. Le pape est en train de visiter une nouvelle fois le camp de Lesbos, où il était allé il y a 5 ans, en 2016. Qu'est-ce qu'il cherche, le pape ?
Qu'est-ce qu'il cherche ? C'est une bonne question. En effet, je pense qu'il revient, il l'avait dit en 2016, quand il était allé la première fois à Lesbos, il avait dit « je reviendrai ». Donc déjà, il tient sa promesse.
Et alors, vous, il vous a parlé, il a demandé à ce que vous représentez, Sainte Égidio, de vous occuper, mais qu'est-ce qui le motive ?
Je pense que c'est une révolte aussi intérieure. Il voit les migrants, il voit ce qui se passe dans le monde, en Europe, et il voit des situations indignes. Il essaie d'y répondre, et en tant que chef d'État aussi, en tant qu'homme politique, il veut passer un message sur les migrants et sur l'accueil des migrants et la fraternité.
C'est aussi un provocateur, parce que quand il s'adresse à eux, d'abord il dit « frères et sœurs migrants », mais il compare leur sort à l'esclavage et à la torture. Et il va plus loin, il dit que ce qui est en train de se passer rappelle les heures sombres de l'histoire. Il compare avec les nazis, avec Staline, mais comparer les démocraties aujourd'hui avec les dictatures de cette époque, il exagère.
Il parle des rives voisines. Il parle des lagueurs sur les rives voisines de Chypre. Selon moi, il parlait plutôt de la Libye.
Oui.
Que des côtes européennes. Et en Libye, on le sait ce qui se passe.
Donc, c'est un jugement sur la Méditerranée.
Je pense, oui.
Oui.
Et sur les rives voisines de l'Europe.
Vous faites partie de Sainte Égidio. Est-ce que vous êtes des religieux ?
Non, on n'est pas des religieux, on est une communauté de laïcs, donc des laïcs chrétiens.
Oui.
Des hommes et des femmes, comme vous, comme toute personne ordinaire dans le monde. On vit dans la société de manière tout à fait ordinaire, mais on va chercher à vivre l'extraordinaire de l'Évangile, je dirais, c'est-à-dire l'extraordinaire de l'amitié, de la fraternité avec tous. C'est des grands mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vivre l'amitié avec les plus pauvres, dont les migrants, dont les sans-abri, les personnes âgées, les enfants dans des situations en difficulté, mais dans notre vie ordinaire. On a un travail, on a une situation.
Ce sont des gestes concrets.
Des gestes très concrets.
Part.
Des gestes très concrets.
Vous y êtes entré quand à Sainte-Égidio ?
J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, donc il y a un peu plus de 25 ans maintenant.
Et le mouvement existe depuis ?
25 ans en France, à Paris, oui, et en France.
Alors Lesbos, c'est...
Et en 1968 à Rome, hein, avec Andrea Riccardi, qui à l'époque avait 18 ans.
Lesbos, en Grèce, c'est 4000 migrants ou réfugiés qui viennent du Proche-Orient, qui viennent d'Afrique, de tous ces pays, en état de misère et de difficulté, parfois de guerre. Mais c'est un camp. Est-ce qu'on peut dire que c'est un camp de détention et même une prison ?
Alors, en tout cas, c'est une prison.
Parce qu'il y a des barbelés autour.
Exactement. C'est une prison à ciel ouvert. C'est un semi-enfermement. Les personnes qui vivent à Lesbos ont des horaires d'entrée et de sortie. Elles ne peuvent pas sortir le week-end. Voyez ? Donc, il y a vraiment une situation d'enfermement. Et les seules personnes qu'elles rencontrent, c'est la police et puis les ONG.
Les polices grecques.
La police grecque. Sur les 4000 personnes, la plupart sont en conteneur, mais il y a encore beaucoup de tentes qui sont là.
Oui, mais parce qu'il y a eu un incendie qu'ils avaient provoqué eux-mêmes et ce camp a été remplacé par un autre, toujours entouré de barbelés, et apparemment sans espoir d'en sortir, mais on va reparler. Et comment on arrive à faire vivre des gens qui viennent du Proche-Orient, ou de Libye, de Liban, d'Éthiopie, du Congo ? Comment ? Parce que d'après ce qu'on lit, il y a des difficultés à l'intérieur, il y a des violences, il y a de l'insécurité, il y a des heurts entre eux.
Bien sûr. Imaginez 4000 personnes qui vivent les unes sur les autres, dans des conditions indignes, parce que le camp... Il est fait sur un terrain qui n'est pas du tout adapté. Dès qu'il pleut, tout est inondé. Donc, ce sont des conditions de vie très, très difficiles. Donc, en effet, cela amène à des heurts, à des difficultés énormes. Et surtout, on rencontre des personnes qui sont là depuis 4 ans,
ouais.
Qui attendent leur demande d'asile depuis 4
ans. Et qui n'auront jamais le droit d'asile. Ou quelques-uns, mais au compte-gouttes.
Au compte-gouttes, et on travaille avec le gouvernement grec pour justement délier tout cela.
Et qui s'occupe d'eux ? Qui les nourrit ?
Alors, il y a des
jour.
ONG sur place, la Caritas, Sainte Égidio et des ONG aussi.
Le gouvernement grec.
Le gouvernement grec, bien sûr. Mais surtout, il y a des repas distribués. Mais vous voyez, par exemple, l'accès à l'éducation n'est pas du tout adapté. Les enfants ne vont pas à l'école, quasiment pas. Donc, quand vous attendez 4 ans, vous avez un enfant de 6 ans. À 10 ans, ça veut dire toute la primaire, il ne l'aura pas faite.
Et en plus, il y a des mineurs.
Il y a la moitié du camp est mineur. Mineurs isolés, mais aussi mineurs de...
Comment ils sont arrivés là ?
par leurs propres moyens, par les passeurs.
Les mineurs.
Oui, aussi.
Les mineurs isolés.
Je dois simplement dire que, pour dire le désespoir dans ce camp, il y a des suicides d'enfants. Je ne sais pas ce que vous voyez, ce que ça veut dire, un suicide d'enfant. Le désespoir d'un enfant qui va jusqu'à donner sa mort. Donc on est dans une situation extrême.
Vous, au centre Egidio, vous n'êtes pas installé, je suppose, à l'intérieur du camp.
Non, nous ne sommes pas à l'intérieur, mais juste à l'extérieur du camp. Et l'été, par exemple, il y a plus de 250 bénévoles de toute l'Europe qui viennent pour distribuer un repas artisanal. On appelle ça la cantine familiale. Il y a plus de 1000 repas distribués tous les jours. Donc déjà, ils se ressourcent de cette manière-là. Et surtout, on en profite pour étudier les dossiers de chacun de ceux qui viennent.
Donc, pour régler ce problème, il n'y a pas que les bons sentiments.
Non, du tout. C'est du travail.
Oui. Alors, on dit que le pape va rentrer en Italie, aujourd'hui ou demain, avec 50 migrants, et dont 10 en situation illégale. Mais il va les ramener en avion lui-même, cette fois-ci?
Non, pas avec lui dans l'avion, puisqu'il doit faire Chypre-Athènes, donc c'était compliqué pour des personnes qui arrivent de manière légale d'avoir plusieurs visas. Donc, ils vont aller de Chypre à Rome directement. Donc, ils partiront mi-décembre et puis ensuite fin décembre. Il y aura deux arrivées sur ces 50 migrants.
Nous, votre pays, vous avez, votre mouvement, vous avez créé des couloirs humanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous permet d'aller vous occuper d'eux, mais vous ne pouvez pas en sortir.
Si, alors les couloirs humanitaires, justement, c'est une approche globale et locale du migrant. On est allé voir les migrants, on a écouté leur histoire et on a essayé de créer un système sûr et légal pour qu'ils puissent être accueillis et intégrés sans justement confrontation et sans danger pour eux. Pas de passeurs, pas de Méditerranée, c'est un voyage en avion. On va dans les camps, à Lesbos, aussi au Liban.
Mais comment vous les choisissez?
Il y a l'identification en effet. Donc Sant'Egidio on a autorisé à Sant'Egidio d'identifier les personnes. Ce sont sur le critère, l'unique critère de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est des femmes enceintes, c'est des familles avec des jeunes enfants, c'est des personnes qui ont subi un traumatisme. Et là, on a le lourd travail, en effet, d'identifier. Et ensuite, ils sont présentés au consulat français.
Mais il y a des contrôles pour pas que certains se faufilent.
Exactement.
Et qui seraient parfois liés à des mouvements terroristes.
Ça, c'est le travail, en effet, du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire les couloirs humanitaires, c'est un protocole signé avec le ministère des Affaires étrangères.
La procédure est longue, sans doute. Elle est contrôlée. Est-ce qu'ils parlent déjà le français ou on
pas
attend
forcément.
Qu'ils parlent le français quand ils arrivent?
Non, du tout. Pas forcément. En revanche, sous la tente, dans le camp, il y a un projet de vie qui est écrit. Et dans ce projet de vie, alors un projet de vie, c'est, voilà, parce que vu qu'ils sont en plein désespoir, avec nous, ils retrouvent l'espoir d'arriver dans un pays d'accueil et d'être intégrés. Donc, il faut écrire un projet de vie.
Ouais.
Qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver? Et en effet, on leur demande de signer un papier, comme quoi la première chose qu'ils font en arrivant, c'est apprendre la langue française. Et quand ils arrivent, il y a un collectif, une dizaine de personnes en France, bénévoles, une ressource humaine magnifique, puisque aussi très économique, qui va les accueillir de manière gratuite.
Qui va s'occuper de logement, d'emploi.
De tout.
Qui va recevoir des ressources. Mais comment ils sont répartis en France?
Alors actuellement, on accueille plus de 550 personnes sur 43 départements. Donc c'est vraiment dans tout le territoire.
Oui. Vous les sortez, vous les libérez au compte-gouttes. Est-ce que vous, comme le PAT, vous ne faites pas naître des espoirs auxquels vous ne pouvez pas répondre?
Non, on espère surtout que les couloirs humanitaires prennent plus d'ampleur. On plaide pour que les couloirs humanitaires deviennent beaucoup plus
amples. Mais vous plaidez pas pour que les 4000 viennent en Europe?
Il faut voir leur situation, si, mais souvent, leur situation fait qu'ils doivent arriver en Europe. L'Europe est grande, 4000.
Oui, mais vous savez que l'opinion, en général, elle est contre les migrants, elle les rejette. Pour elle, ouvrir ou entrouvrir les portes, c'est en même temps faciliter un flux ininterrompu de migrants. Je sais bien que le pape dit ou met en garde l'Europe et qu'il dit qu'il ne faut pas des murs en Europe. Mais on ne peut pas, ou est-ce qu'on peut absorber même 4000 alors que les opinions ne veulent pas?
Moi, je pense que l'intégration protège plus que les murs. C'est-à-dire, si vraiment on travaille sur l'accueil et l'intégration, on peut accueillir des personnes.
Mais qui
ont? Il ne faut pas se résigner. C'est la société civile.
Mais elle n'en veut pas. Vous regardez tous les candidats aux élections avec une prudence et en même temps des précautions pour qu'un flux n'arrive pas.
Alors, sur les 550 personnes accueillies, ça représente environ 2500 bénévoles. Je vous assure qu'on trouve des ressources humaines plus qu'on ne le pense. Moi, je pense qu'il y a des personnes généreuses, peut-être qu'ils ne le savent pas, qui sont capables d'accueillir et d'intégrer. On l'a fait dans les années 70 avec les Boat People. On était en pleine crise économique. Il me semble qu'on a des valeurs humanistes et universalistes à défendre. C'est vrai qu'on est dans un contexte difficile, politique aussi, mais moi, je voyage dans toute la France pour...
Convaincre.
Convaincre, mais surtout voir les familles qui sont accueillies, et je vous assure qu'il y a des personnes aussi qui ne pensaient pas pouvoir accueillir de cette manière-là.
Mais l'humanitaire, c'est... Je n'ose pas le dire, de la charité.
Oui, mais c'est aussi, je dirais, l'organisation de l'espérance.
Pour 2022, qu'est-ce que vous demandez ou demanderiez aux candidats, quel qu'il soit, et qui devraient avoir la liberté, quel qu'il soit, encore une fois, de s'exprimer quand ils ont envie de faire des meetings?
Justement,
qu'est-ce que vous leur demandez?
Voilà, Santé Gidu est en train d'écrire un appel sur la question migratoire aux candidats avec le magazine La Vie. Il va paraître dans quelques jours. Et dans cet appel, on demande trois choses. La lucidité, la mémoire et le courage. La lucidité de ne pas réduire la migration à quelque chose qui est une menace.
Mais de la contrôler, de la limiter.
Oui, bah de le faire, par exemple, comme les couleurs humanitaires, c'est-à-dire de manière sûre et légale, c'est une manière contrôlée et sécurisée. Okay. Donc la lucidité de ne pas réduire la migration, justement, à une menace. Le courage de la compassion, dirait pas François, moi je dirais le courage de l'intégration. L'intégration, il faut du courage et du travail.
Lui résume en disant « ouvrez les yeux, ouvrez les bras ».
Oui, et c'est possible, on le voit. Et puis la mémoire de nos valeurs humanistes et universalistes, je le disais, dans les années 70, on a été capable d'accueillir 130 000 boat people dans une crise économique.
Mais vous n'oubliez pas les camps de Calais, de Grande-Synthe, de Dunkerque.
Complètement.
Où les migrants sont encore présents.
Il y a des murs là aussi.
Oui. Et là, c'est présents. La faute de qui? De M. Johnson?
De M. Johnson de l'un côté et de l'Europe. De l'Europe, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi d'accord. Moi, là aussi, on demande une alliance entre pays européens qui sont prêts à accueillir. Ne pas attendre les 27 pays membres. Il faut absolument que certains pays européens fassent une alliance pour cette question migratoire.
Le pape François, il est en Grèce aujourd'hui. Apparemment, il va où on a mal. Et où ça fait mal.
Oui.
C'est un provocateur, sûrement. Il a de la provocation en lui.
Moi, je dirais révolté. Il est révolté de certaines situations qui l'amènent à aller pour dire au monde, regardez, vous avez vu hier, il écoutait 4 récits de migrants. Il les a écoutés. C'était assez impressionnant, très touchant. Nous, on fait la même chose. On écoute et grâce à cette écoute, on trouve des manières, comme les couleurs humanitaires, on crée des systèmes pour justement accueillir
un révolté, il se bat, mais il n'est pas toujours suivi ou pas toujours obéi par même le monde catholique. L'Église de France, même si vous la voyez d'assez loin, mais quand même de près, l'Église de France, elle est secouée aujourd'hui, j'ai envie de dire, de la base au sommet. Est-ce que vous avez compris pourquoi en une semaine et sans enquête, le Vatican a accepté la démission forcé de Monseigneur Aubetier?
Je crois que c'est une surprise pour tout le monde, aussi pour moi, en effet. Et ça, je ne saurais pas vous en dire plus de ce
côté-là. Vous êtes choqué quand même.
On est choqué, oui, je suis choqué. J'ai été surprise d'entendre hier midi que la démission avait été acceptée. Tout à fait.
Probablement, il était attaqué par les plus durs catholiques qui voulaient sa peau et qui l'ont obtenue.
Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Monseigneur Aubetier doit vivre des heures très difficiles. Et ce sont une saison, oui, très compliquée pour lui.
Et vous, merci d'être venu.
Je vous remercie à vous.
À bientôt.
Merci Jean-Pierre Elkabbach. Merci à vous Valérie Régnier.